Fehezoko ny asa fampianarana.
Fehezoko ny asa fampianarana.
Fehezoko ny asa fampianarana.
Fandaharana avokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Natao hanampianareo mpampianatra taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy.
Chers enseignants, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons voir une notion sur le socioconstructivisme. À l'antenne avec vous, Madame Taïna Nouarinzanari, chargée d'études à la Direction générale en charge de la pédagogie. À la fin de cette émission, vous serez capable de répondre aux questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce que le socioconstructivisme ? En second lieu, comment l'enseignant peut pratiquer le socioconstructivisme en classe? Enfin, quels peuvent être les avantages et les inconvénients du socioconstructivisme? Je vous donne un petit instant pour préparer de quoi prendre note. Commençons. Avez-vous déjà entendu parler du socioconstructivisme? Ça ne fait rien. Même s'il se trouve que ce mot vous semble nouveau, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Pour connaître davantage ce que le socioconstructivisme signifie vraiment. Il s'agit d'une théorie d'apprentissage très connue, son efficacité a été démontrée scientifiquement. Tout d'abord, analysons le mot « socioconstructivisme ». Il s'agit d'un assemblage de deux mots qui sont le « socio » et « constructivisme ». Le mot « socio », qui peut avoir comme dérivé la société, signifie aussi « environnement »,« collectivité », c'est-à-dire ensemble d'individus vivant dans un milieu et présentant des traits similaires, par exemple l'âge, les caractéristiques, objectifs, etc. Par ailleurs, le mot constructivisme peut être défini comme étant une théorie de l'apprentissage qui décrit le processus de la connaissance comme une construction qu'effectue l'apprenant de façon active. Comme définition, nous pouvons dire que le socioconstructivisme, c'est une théorie d'apprentissage qu'un nommé Vygotsky était l'auteur. Issu de la théorie constructivisme de Piaget, qui met l'accent sur l'incitation des élèves à construire eux-mêmes leurs propres connaissances. Par contre, le socioconstructivisme met une grande importance sur l'interaction, l'échange entre les apprenants, c'est-à-dire une interaction entre le sujet et son environnement. Je récapitule et en même temps, vous pouvez prendre note. Le socioconstructivisme est une théorie d'apprentissage qui met de l'importance sur l'interaction et l'échange entre l'apprenant et son environnement. Je répète, le socioconstructivisme est une théorie d'apprentissage qui met de l'importance sur l'interaction et l'échange entre l'apprenant et son environnement. D'après vous, Quels sont les rôles de l'enseignant face à cette théorie? Dans le socioconstructivisme, l'enseignant occupe une place très importante dans le processus d'apprentissage. Sa place ne se situe toutefois pas à l'avant-plan. C'est l'élève lui-même, en interaction avec ses pairs, qui est au cœur de ses apprentissages. L'enseignant devient un guide, un accompagnateur et un médiateur dans tous les processus de construction de connaissances. Le principal outil d'intervention est le questionnement ouvert. L'enseignant fait une préparation à l'avance. Il doit bien gérer le programme scolaire pour pouvoir identifier toutes les activités qui vont avec cette approche. À l'avance, il fait des préparations comme d'habitude. Élaborer une fiche de préparation, mais dans sa fiche, il doit bien marquer tous les éléments qui marquent l'utilisation du socio-constructivisme. Imaginez à l'avance les difficultés dont les apprenants pourront avoir en réalisant les tâches, les questions qui seront utiles pour les guider et même, ce qui n'est pas le moindre, la formation des groupes de travail. Élèves forts avec des élèves moyens et faibles, par exemple. Marquez dans la fiche de préparation les étapes et déroulements de l'activité, les résultats attendus ainsi que la durée de chaque étape dans l'activité. Après l'activité, l'enseignant a comme devoir de faire une auto-évaluation. Il doit identifier les points faibles et points forts dans ses pratiques de classe. Comment les apprenants ont-ils réagi pendant l'activité, etc. Maintenant, faisons un petit exercice. Quels sont les éléments nécessaires pour mettre en œuvre cette théorie de socio-constructivisme? Comme réponse, nous avons la gestion de l'espace, c'est-à-dire la disposition de la salle, la disposition des tables. Les techniques d'animation. S'agit-il d'un exposé ou d'une démonstration ou autre? Les supports, les grandes ardoises, les livres, etc. La responsabilisation des apprenants, c'est-à-dire la répartition des tâches comme le chef de groupe, le rapporteur, le secrétaire, le responsable de matériel, etc. D'après vous, combien d'élèves devrions-nous mettre dans un groupe de travail? En général, inférieur ou égal à 8 élèves. À souligner que le groupe doit être hétérogène, c'est-à-dire composé de filles et de garçons ayant des caractères et niveaux intellectuels différents. Quelles devraient être les étapes à suivre pendant les travaux de groupe? Bien sûr, répartition des apprenants en groupe. Passation de consignes. Elles devraient être claires et précises. Vérifier la compréhension des consignes. Le travail de groupe. L'enseignant circule et vérifie le bon déroulement du travail du groupe et la participation de chaque élément dans le groupe. La validation. La porte-parole lit la production. La justification, question des autres groupes avec les réponses du groupe. Et enfin, la correction et notation par l'enseignant. Je vais répéter. La répartition des apprenants en groupe, la passation de consignes, la vérification de la compréhension des consignes, le travail de groupe, la participation de chaque groupe, la validation, la justification et la correction. Avant d'aller plus loin, il est à souligner que les grands principes à se souvenir à chaque fois qu'on parle du socioconstructivisme sont: premièrement, l'apprenant construit ses apprentissages. C'est en s'appuyant sur ses connaissances antérieures que l'apprenant peut confronter à un conflit cognitif. Ce dernier est à la source de ses futurs apprentissages. Une remise en question de ses connaissances se fait. L'apprenant reconstruit ses connaissances. Il n'est plus question de l'enseignant qui transmet. Deuxièmement, l'apprenant est actif dans son apprentissage. C'est-à-dire, l'apprenant doit être actif, agir, interagir et réfléchir. Il observe, se questionne, discute, expérimente, manipule, collabore, recherche, synthétise, etc. Troisièmement, l'apprenant apprend en interaction avec les autres et son environnement. Voyons maintenant les avantages du socio-constructivisme. Il est à souligner que les interactions contribuent à la remise en question des conceptions déjà installées chez soi, à susciter des conflits socio-cognitifs et à amener à justifier les interprétations. Nous pouvons affirmer donc que l'apprentissage en action, en situation et en contexte permet à l'apprenant de construire lui-même ses propres connaissances et ses compétences, tout en interagissant avec les autres et en adaptant ce qu'il connaît déjà aux exigences de la situation. Le socio-constructivisme permet d'élargir la dimension des connaissances attendues, parce que les connaissances de chaque individu seront exposées au maximum durant le temps alloué pour les échanges. Certains auteurs affirment que selon l'approche socio-constructivisme, l'apprenant est en action. Il construit lui-même ses connaissances et ses compétences. Il part de ce qu'il connaît déjà et il apprend en situation et en contact avec les autres. Ce qui explique l'importance des autres. Essayez de classer les avantages cités dans un tableau de deux colonnes. Dans la première colonne, elle est dédiée pour l'organisation. Et la seconde, c'est sur les apprenants et l'apprentissage. Je vous donne quelques instants pour le faire. Les avantages sur l'organisation. Un gain de temps. C'est-à-dire, plusieurs apprenants peuvent faire une activité en même temps. Ensuite, un gain d'énergie. Les apports du maître peuvent être repris par des autres apprenants du groupe. Troisièmement, un gain de ressources et de capacités. Le maître ne détient pas seul le savoir. Les apprenants eux-mêmes sont là avec leur capacité intellectuelle. Je récapitule. Les avantages sur l'organisation sont un gain de temps, un gain d'énergie et un gain de ressources et de capacités. Les avantages sur les apprenants et l'apprentissage maintenant. L'entraide entre les apprenants pour réfléchir et mettre en commun leurs compétences pour atteindre les objectifs, structuration et fixation des savoirs, la responsabilisation de l'enfant et surtout la socialisation, c'est-à-dire habitude de travailler ensemble, esprit d'adaptation et de tolérance. Je récapitule. Les avantages sur les apprenants et l'apprentissage sont l'entraide entre les apprenants, la responsabilisation de l'enfant et enfin la socialisation. Pourtant, il existe des inconvénients pour cette pratique. D'après vous, quels sont ces inconvénients? Oui, vous avez bien compris. L'enseignant doit passer beaucoup plus de temps pour la préparation. Et durant l'activité, il joue seulement le rôle de médiateur, stimulant. Il faut à tout prix contrôler l'espace et l'ordre durant la séance. L'élaboration des consignes demande beaucoup d'attention car tout se repose sur les consignes. Pour conclure notre émission d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les enseignants doivent avoir plusieurs méthodes et les varier, les approches ainsi que les théories d'apprentissage. Parmi les théories, nous avons appris en ce jour ce qu'est la théorie d'apprentissage socio-constructiviste. Cette théorie n'est pas née d'hier. En effet, ses origines remontent au début du XXe siècle. Nous pouvons adopter plusieurs méthodes d'enseignement pour atteindre notre objectif d'apprentissage. Seulement, il faut savoir les utiliser selon la circonstance et le lieu approprié. N'oublions pas que le cerveau humain est toujours en quête de nouvelles connaissances et la meilleure manière d'y arriver, c'est le fait de construire ses connaissances par soi-même tout en observant son environnement. Ça y est, chers enseignants, nous arrivons au terme de notre émission. À la présentation, Madame Taïna Nwarinzanahari, chargée d'études à la direction en charge de la pédagogie. Je tiens à vous remercier pour votre bien aimable attention. Au revoir, chers enseignants, et portez-vous bien.
Narayino teo.
Feesiko ny asa fampianarana.
Feesiko ny asa fampianarana.
Feesiko ny asa fampianarana.
Fandarana vokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Natao hanampiana ireo mpampianatra taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy.